L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. À l'occasion de la 4e rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette 4e rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Baptiste Barré, tu es chef de projet transformation, catalyseur d'engagement, et puis tu m'as aussi dit chimiste voileux montagnard. Alors, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est les deux premières expressions, c'est-à-dire chef de projet transformation, catalyseur d'engagement, mais je pense que ça a un lien avec la suite. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à la MGEN, qu'on arrive sur une fonction RH, qu'être, je le redis, chef de projet transformation, catalyseur d'engagement?
Déjà, ça me fait rire. Parce que en interne, c'est pas mon titre. C'est le titre que moi je me suis donné sur LinkedIn d'être catalyseur d'engagement, parce que j'ai fait une thèse en catalyse, que le catalyseur c'est un tout petit ingrédient dans une réaction chimique qui permet de déclencher quelque chose. Et donc c'est juste de... Je ne suis pas au centre d'eux, je suis là juste là pour déclencher. Et donc c'est un peu l'histoire que je me suis... qui m'a été donnée, qui m'a été proposée, pour me narrer dans mon parcours professionnel entre la chimie organique et la recherche dans l'agroalimentaire et aujourd'hui de vrai à la MGEN. Donc mon vrai titre, c'est chef de projet niveau 2, parce que c'est ma fonction et ça n'a pas trop de... ça ne veut rien dire, mais j'œuvre en tant que chef de projet autour des transformations culturelles et managériales. Et ça, c'est peut-être un peu plus parlant.
Qu'est-ce qui a fait que la MGEN, qui est une structure, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ce matin, qui relève de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été intéressée par ton profil? Sourire.
Je ne sais pas du tout, et en tout cas...
Tu ne te sens pas illégitime?
Pas du tout. Pas du tout, et moi j'ai beaucoup de gratitude pour la maison MGEN, et je suis hyper attaché à la maison. La MGEN est arrivée, moi j'aime dire que ma vie est un long chemin. De petites randonnées, grandes randonnées, il y a des cailloux que la vie sème sur mon chemin et la MGEN est vraiment tombée comme ça. Un homme a cliqué sur mon profil LinkedIn pendant le confinement, Philippe Picard, je le connaissais pas, transformation, MGEN, j'ai cliqué, tiens, c'est un ancien chimiste comme chez moi, enfin comme de ma même école que moi. Et donc j'ai cliqué, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, moi je suis pas un exécutant, ici on travaille pas pour des actionnaires. Du coup moi ça m'a un peu parlé et moi j'ai fait de la chimie pour soigner les gens et je travaille dans une mutuelle qui fournit une complémentaire santé. Et donc, ça m'a un peu appelé, et donc j'y suis arrivé tel que j'étais. Et la personne qui m'a reçu, et quand je suis passé du volet recherche au conseil RH, j'ai pas de diplôme, mais j'ai travaillé dans une... Enfin, j'ai œuvré dans une association qui s'appelle Éclore, où j'ai découvert pas mal de concepts, pas mal d'art de vivre. Et quand j'en parlais à des RH, je voyais qu'ils connaissaient pas ou elles connaissaient pas, et je me dis, bah tiens, je peux apporter quelque chose. Et donc, je suis arrivé comme ça... grand ouvert, qui j'étais à cet entretien d'embauche et j'ai rencontré un chef, Emeric, qui a été, Emeric Carrette-Verneuil, qui a été le premier manager qui m'a accepté tel que j'étais. Et donc en fait, je ne suis pas le même homme aujourd'hui que quand je suis entré dans la MGEN et j'ai vraiment senti qu'en œuvrant dans cette maison, et il y a plein de conditions, et notamment mon chef a été très important là-dedans, m'a permis de déployer mes ailes et d'agir dans toute ma... C'est pas facile à dire, parce que j'ai un peu honte de le dire, mais dans toute ma puissance, en fait, de trouver ma puissance dans cette maison et d'agir.
D'accord. Alors, le sujet pour lequel on se parle aujourd'hui, c'est celui du management, et notamment du management dans les structures relevant de l'ESS. En fait, il y a un constat qui est quasi unanime, que tu ne partageras peut-être pas, mais en tout cas, je crois, moi, l'avoir entendu comme cela, qui est qu'on sait fonctionner selon les modalités de l'économie sociale solidaire quand on est une structure relevant de l'ESS, c'est-à-dire la gouvernance, la démocratie, on sait faire. En revanche, pour le volet RH, on sait moins faire. Donc, on s'est aligné sur des savoir-faire qui sont partagés par l'ensemble des entreprises et qui ne sont peut-être pas très adaptés ou toujours adaptés à ce monde-là. Tu es arrivé à la MGEN pour transformer, pour observer sans doute déjà dans un premier temps, puis pour transformer les relations humaines ou transformer les organisations. Tu as parlé de 400 ou 500 organisations au sein de la MGEN.
On avait 748 managers sur le périmètre, hors, sans compter le livre 3, qui est nos établissements de santé, qui est la moitié de l'organisation.
Alors quel est ton rapport d'étonnement? Je vais le dire comme ça.
En fait, on est vraiment sur... Au cours de la structuration de la maison MGEN avec la création de ce qu'on appelle des régions, ce qu'on n'avait pas avant, a été posée la question, mais ça veut dire quoi manager commercialement au sein de nos sections départementales? Et ils ont tiré le fil de se dire, mais en fait, au fond, ça veut dire quoi manager à la MGEN? Et donc, il y a toute une démarche qui a été lancée, justement de transformation managériale, pour finalement accompagner les managers et les collaborateurs dans de nouvelles formes de travail. Et ce n'est pas la direction qui a pondu le modèle. Il y a une centaine, 150 managers qui ont travaillé en petits groupes pour pouvoir élaborer un modèle. Et en 2019, ça a été vraiment le lancement de cette transformation managériale avec plusieurs volets. Parce que c'est d'abord comment est-ce qu'on parle en même langage commun. Donc déjà des formations. Comment est-ce qu'on permet aux gens d'expérimenter? Donc il y avait tout un cadre d'expérimentation pour permettre aux gens d'expérimenter. Tout un volet autour de l'information. Où est-ce qu'on peut retrouver des ressources pour s'inspirer? Donc ça, c'est le troisième volet. Et on avait créé un espace autour du partagé. Parce que finalement, les meilleures personnes qui peuvent parler à d'autres personnes pour faire évoluer les pratiques, c'est les pairs, quoi. Et ma parole est bien plus moins puissante qu'un manager qui parle à un autre manager de ce que il ou elle fait avec leurs équipes. J'ai eu la chance, et ça c'est merci la fonction RH, c'est de pouvoir dialoguer avec plein de managers différents. J'ai rencontré plein de managers qui font des choses canon dans la maison. Un manager qui est arrivé, qui a dit à ses équipes, une centaine de personnes dans un centre, « Bonjour, je m'appelle un tel, je suis une somme d'erreurs. » Et en fait, les erreurs, on va continuer à les faire ensemble. C'est une personne qui a permis à ses collaborateurs de recruter les propres pairs, alors qu'ils n'étaient même pas managers. Et donc, a vraiment pensé différemment certains processus RH. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a un cadre national qui est posé, mais en fait... Les gens peuvent s'amuser avec ce cadre. On peut quand même le respecter et faire un peu différemment.
On peut être inventif.
On peut carrément être inventif. Et dans ce même centre, les équipes ont pu être amenées à choisir leur propre manager en respectant un cadre bien clair de « il faut telle fonction ». Et en fait, il est possible de faire différemment. Et tous les jours, j'ai rencontré des managers qui font différemment. Et donc ça, je ne m'attendais pas à voir ça parce que l'image de la MGEN que j'avais, c'était le mammouth, un peu à l'instar de l'éducation nationale. Je ne sais pas si c'est OK de dire ça, mais en tout cas, mes observations aujourd'hui, c'est qu'on est une grande organisation et en fait, on a beau avoir une culture cible plus participative, collaborative, il n'empêche que chaque équipe a sa propre culture, que le métier de chacun influe largement sur la culture que l'on vit et que moi, j'ai vécu dans un havre de paix qui est la plénitude, comme le décrit Frédéric Laloux dans son livre « Reinventing Organization », qui a été incroyable. Et moi, j'ai pu vivre de l'intérieur l'alignement entre mes aspirations et mes perceptions. Et moi, ça me donne une énergie de malade.
Donc, si j'entends bien, le sujet, c'est de dire, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une façon de faire. C'est à chacun de trouver les bonnes solutions pour son organisation, pour les personnes et avec les personnes qui la composent. Est-ce que c'est su? Est-ce qu'il y a une transmission au sein de l'immense MGEN de ces différentes façons de faire?
Ça, c'est vraiment notre gros enjeu. C'est vraiment notre gros enjeu parce qu'aujourd'hui, quasiment la totalité de nos managers sont des opérationnels qui ont les agendas qui se remplissent comme jamais. On est en pleine période de transformation, donc au-delà de la transformation managériale, la maison MGEN est en plein boom, tout est refait. On refait tout du sol au plafond, des fondations, il y a tout qui a bougé. Depuis que je suis là, tout bouge. Donc en fait, les managers aujourd'hui sont pris par l'opérationnel. Et déjà, prendre du temps pour se poser avec leurs équipes de comment ça va dans les équipes, c'est déjà dur à faire. Et donc, de permettre aux managers de leur dire, vous avez un centre de ressources, il y a plein de choses, il y a des témoignages d'autres managers, c'est dur. Ils ont du mal. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on essaie de se réinventer pour créer des temps, dans les temps qui existent déjà, de permettre à d'autres de pouvoir dialoguer, partager et leur donner envie, de faire différemment. Donc on essaye à chaque fois, et c'est ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire que dès qu'on a des besoins, que les gens osent nous dire, j'ai besoin de ça, on essaie de l'ajouter. Mais même ça, les managers, vous êtes nos clients, on est là pour vous, dites-nous de quoi vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut améliorer, on a très peu de retours.
Ce que j'entends quand tu dis « ose nous dire » ou « ne pas nous dire », ça veut dire que la parole, elle n'est pas si fluide que ça. Qui dit parole dit participation et on est au sein d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ?
Je sais pas si... Enfin, je ne mettrai pas le lien avec l'économie sociale et solidaire. Je mettrai juste le monde du travail. En tout cas, on est une organisation du travail. Et que nous avons tous un vécu. Nous avons tous des expériences plus ou moins... enthousiasmante, traumatisante, difficile, etc., qui fait que j'ose dire ou j'ai arrêté d'oser dire, ou je me sens pas légitime. Et moi, j'adore l'analogie avec la plante verte. Nous sommes tous et toutes des plantes vertes. Et la question, c'est quels sont les ingrédients dont chacun en a besoin pour qu'elle pousse.
On revient à la chimie.
Non, mais c'est tout ça pour dire que pour permettre une parole qui se libère et qui s'ouvre, ça nécessite des conditions de sécurité psychologique, et c'est loin d'être évident. Parce que le non-verbal dit beaucoup de choses, et des fois je peux dire quelque chose et mon non-verbal dit l'inverse, et ça peut finalement bloquer dans certaines réactions à oser dire. Et c'est sûr que moi j'essaye de ramener, de tester, d'expérimenter dans le système MGEN des pratiques moi, qui ont changé ma vie en osant dire. La communication non-violente est typiquement une approche moi, qui a changé ma manière de communiquer, et... c'est vraiment un changement de paradigme, et donc j'ai essayé de ramener ça. C'était déjà présent, les services de formation avaient déjà ramené ça. Mais là, j'essaie de ramener le modèle entier. Et j'ai pu faire une expérimentation il n'y a pas si longtemps, et tout de suite, il se passe quelque chose. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà du statut, au-delà de nos expériences, on peut tous apporter quelque chose mutuellement. Ça nécessite juste d'arriver à descendre un peu plus profondément et de passer ce que j'appelle de la small talk, conversation météo, etc., à quelque chose de plus profond. Mais derrière, ça veut dire, s'il y a osé dire, derrière, ça veut dire qu'il y a de l'écoute. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout.
Et qui est précieux.
Et qui est fondamental.
Essentiel, fondamental, voilà. Eh bien, merci infiniment, Baptiste Barré, donc chef de projet transformation. Je ne sais pas si ce titre-là que j'ai sous les yeux est le bon, mais en tout cas, merci pour ce propos enthousiasmant. Merci infiniment.
Merci, Carole.
Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.